les ondes buissonnières. Oui. Diffusion sauvage.
Les ondes sauvages diffusent.
Non.
Diffusion sonore pour oreilles encrassées.
Non.
Diffusion sauvage pour des oreilles apprivoisées.
Non.
Les ondes buissonnières, diffusion sauvage de sonorités apprivoisées.
Yes.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Cette semaine, on continue notre exploration du thème des violences au sein de la famille avec le podcast documentaire de Thomas Belalfaoui intitulé « Mais c'était un bon père ». Sur la page d'accueil, voilà ce qu'il écrit. Je le cite. Peut-on vraiment séparer le mari du père? Qu'est-ce que ça fait de grandir dans un climat de violence? Quels impacts cela a-t-il encore aujourd'hui sur ma vie d'adulte? Ce n'est qu'à l'âge adulte que j'en ai pris conscience. Je n'ai pas été simplement témoin des violences de mon père envers ma mère. Depuis un an, je fais partie du groupe de parole Enfants co-victimes de l'association Elle s'imagine à Paris. Au fil de ces 5 épisodes, je tente, avec d'autres adultes qui ont vécu la même chose que moi, de répondre à mes questions. Pourquoi j'ai mis si longtemps à m'avouer que je déteste mon père? Et pourquoi a-t-on tant de mal à entendre un enfant qui ne veut plus voir son père? Voilà toutes les questions que se pose Thomas Belalfaoui dans ce podcast dont on vous propose aujourd'hui les épisodes 3 et 4, Quelqu'un de bien et Je te crois. Bonne écoute.
Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros.
Mon père,
vastes oiseaux des mers,
c'était un poète.
Qui suivent un dolent compagnon de voyage.
Il m'a transmis
les navires glissant sur les gouffres amers.
Son amour des belles lettres.
À peine les ont-ils déposés sur les planches que
ce jour-là,
le roi de l'azur,
j'étais à côté de lui
et honteux,
sur l'estrade.
Laisse piteusement leurs grandes ailes blanches
dans la salle de
comme
conférence.
Des avirons traîner à côté d'eux.
Entre chaque poème,
ce voyageur ailé,
je jouais un morceau de violon
comme il est gauche et veule
pour l'accompagner.
Lui naguère si beau. Qu'il est comique et laid.
J'aimais bien quand il déclamait des poésies.
L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait.
Bon, c'est vrai, à chaque fois qu'il poussait un cri, j'étais en apnée. Mais je savais que c'était pour de faux. En public, ça ne pouvait pas vraiment dégénérer. Enfin, pas trop. Pas de coup, en tout cas.
Les faux prénoms, c'est quoi déjà?
Du coup, on va faire un tour. On va faire un tour.
Oui, merci.
Moi, Maya.
Maya.
C'est pour moi déjà, Thomas.
Moi, j'ai gardé mon prénom.
Adèle.
Toi, c'était Adèle.
Adèle.
Je t'avais
un souvenir.
Et moi, c'était Luna.
Ah, oui.
Voilà.
Ah. Et Marine.
Maya, Thomas, Adèle, Luna. Ok.
J'ai tout misé sur les colonies de vacances et puis après sur les échanges linguistiques. Et bah, ça suffisait pas, ça fonctionnait pas. Et en seconde, je suis partie 6 mois en Allemagne. Quand je suis revenue, les violences étaient encore plus fortes. Et du coup, j'ai décidé de fuguer. Avant de fuguer, je suis allée voir le père d'une amie, qui était un ami proche de mon père, et mon parrain pour leur demander de l'aide. Et les deux ont eu la même réponse. Les deux m'ont pas cru. Je voyais dans leurs yeux qui me croyaient, mais dans la réponse, ils voulaient pas me croire. Je me sens que un des amis de mon père là, a dit quelque chose que j'oublierai jamais. Il m'a dit, mais je peux pas m'opposer à ton père. C'est quelqu'un de bien.
Un jour, une connaissance nous a dit, à ma mère et à moi, « J'espère qu'il sera comme son père. » Petit rire gêné. J'avais de la chance d'avoir un père si cultivé, si intelligent. Tout le monde lui trouvait plein de qualités, comme si son autre visage n'existait pas. Le visage qu'il nous réservait, à ma mère et à moi. Comment c'est possible ? Mais c'était un bon père. Une série documentaire de Thomas Belalfaoui. Épisode 3. Quelqu'un de bien.
Et j'ai fugué le plus discrètement du monde. J'ai pas prévenu même mes meilleurs amis, parce que notamment l'amie la plus proche à ce moment-là venait d'apprendre que sa mère avait un grave cancer. Et donc j'ai même pas osé dire à cette amie que je fuguais parce que c'était trop violent à la maison. Le premier réflexe de mes parents quand ils ont compris que j'étais partie, c'était d'aller au lycée et d'aller attraper mes amis pour savoir où j'étais, quoi. Et pas forcément en mode sympa d'ailleurs, je pense. Et cette amie en particulier, alors qu'elle savait pas où j'étais et tout ça, bah elle m'a couverte. Elle a menti et elle m'a protégée. Et ça m'a vachement émue et ça m'a permis de comprendre à ce moment-là qu'il n'y a pas d'échelle de souffrance. Et c'était hyper fort. Mais par contre, il y a une espèce de banalisation du mal, pour reprendre ce concept. Tous les adultes autour, quand même, enfin je comprends en vous écoutant, ils savaient tous pourquoi j'étais partie. Et je me souviens de mon prof d'histoire qui est génial, qui m'a pris dans les bras devant tout le monde et qui m'a accueillie. Mais en fait, personne n'a parlé de pourquoi j'étais partie, quoi. Alors que tout le monde savait. Et mon parrain qui a convaincu mon père de ne pas m'accueillir violemment, bah, il ne m'a pas protégée par la suite, quoi.
Je n'ai pas beaucoup de souvenirs précis des crises. Mais je me rappelle cette scène. Je dois avoir 4 ans. Je suis avec ma mère à l'arrière du bus numéro 164. On est accroupis par terre, cachés pour que mon père ne puisse pas nous voir à travers la vitre. Ce jour-là, il était dans une rage folle. C'était pire que d'habitude. Il cassait tout, il menaçait ma mère, il fallait qu'on s'échappe. Elle lui a dit qu'on allait faire les courses, et on est sorti. Mais il pouvait toujours avoir des doutes. Et si il comprenait qu'on avait fui, là, c'était fini pour nous. Bon, heureusement, il ne nous a pas suivis. Et au bout de 2 heures de stress, on est finalement arrivé chez ma tante paternelle, sain et sauf. On est resté une semaine chez elle. Elle a tout fait pour nous réconforter. Mais donc, elle savait. Ma mère lui a tout raconté, mais avec des euphémismes, pour ne pas dramatiser. Alors qu'est-ce qu'elle savait exactement ? Quelle histoire elle se racontait ? En tout cas, elle condamnait le comportement de mon père, mais elle faisait avec. C'était comme ça. C'était son grand frère. Il était un peu colérique, mais au fond, c'était quelqu'un de bien.
J'avais l'impression que tout le monde savait. Et en même temps, tout le monde savait ce qu'il avait envie de savoir. C'est-à-dire que personne ne veut trop en savoir parce que personne ne veut perturber son petit confort mental. Et c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais du coup, si je parle de chez moi, je parle de chez les autres, donc c'est problématique. Et puis, je disais rien, en fait, parce que c'est comme si c'était considéré comme normal. Donc, en fait, il y a quoi à dire, il n'y a rien à dire. Il y a aussi au niveau de l'éducation, le fait qu'il ne faut pas faire de vagues, il ne faut pas faire de problèmes, il ne faut pas mettre la honte sur la famille, parce qu'il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de dispute, on ne crie pas, les enfants aiment leurs parents, et un enfant ne dit jamais non à ses parents, jamais, ça n'existe pas. Une femme, c'est pas qu'elle est soumise à son mari, mais c'est-à-dire qu'elle ne va pas le contredire publiquement, quoi. Ça lui foutrait la honte quand même. Donc toutes ces choses-là font que ça bloque forcément. Et ça bloque pendant longtemps. Donc ça, c'était pour les adultes. Et en ce qui concerne les personnes donc, qui sont de notre âge, donc du coup, pareil, c'est rigolo. Moi aussi, je vais parler du lycée. parce que c'est là au moment où j'ai commencé à en parler, parce que je sentais que ma mère a été sur un pan où je pense qu'elle pensait de plus en plus à se séparer. Et j'en avais parlé à une amie, et en fait, sans évaluer le fait qu'elle était sur le même mode de fonctionnement chez elle, malgré qu'elle l'ait déjà laissé sous-entendre, mais c'est-à-dire que c'est ce qui faisait peut-être que moi je me sentais en confiance, mais j'avais pas imaginé le revers de la médaille, c'est-à-dire qu'elle validerait ce genre de comportement. Voilà, donc la conversation s'est arrêtée là. Et puis après, il y a les amis qui écoutent, et puis en fait, je me souviens même pas de ce qu'ils ont répondu, mais je pense pas grand-chose, et puis qui n'ont plus jamais donné de nouvelles, donc du coup, bah forcément, ça donne plus trop envie de parler. Et voilà, je pense que tout ça, ça a un impact. Et je dirais même que plus on nous transmet un message de silence jeune, plus c'est compliqué après pour parler, parce qu'en fait, c'est ancré, quoi, donc même si c'est une petite phrase ou un petit mot, ou même quelqu'un qui sous-entend qu'il a compris, bah ça évite de cristalliser la situation, et peut-être que dans 10 ans, dans 15 ans, ça fera le petit bout de chemin qu'on se dira, bah en fait, mais c'est que ça quand on m'a dit ça en fait, bah oui, c'est ça, ouais. T'as tout compris, t'as mis du temps mais t'as compris. Ouais.
En fait, je crois que c'est assez simple. On ignore tout ce qu'on peut ignorer pour se raconter l'histoire la plus supportable. Mon autre tante, la sœur de ma mère, elle vivait aussi avec un mari violent. Donc, si jamais elle reconnaissait ouvertement ce que moi je vivais, alors elle ne pourrait plus fermer les yeux sur sa situation à elle. Et comme elle ne pouvait pas partir, eh bien, elle s'accrochait au déni pour survivre.
Par rapport à ma mère, j'ai quand même un filtre à mettre parce que je sais qu'elle ne peut pas recevoir tout ce que je vais dire parce qu'elle, elle est trop dans sa souffrance à elle. Donc si jamais je parle de quelque chose de quand on était plus jeune, donc parce que moi j'ai un frère, ou bien elle va être dans le déni, ou bien elle va me dire « bah non, mais c'était pas vraiment ça » ou Et au début, j'étais un peu naïve, je croyais un peu, enfin... On peut pas se dire que notre mère nous ment. Peut-être qu'elle me ment consciemment ou inconsciemment, mais en tout cas, voilà. Du coup, j'ai ce filtre-là de me dire, bah en fait, voilà, j'entretiens de bonnes relations, mais je garde une distance, voilà, même si elle est dans ma tête, mais je le sais, quoi. Voilà.
Si je peux rebondir sur ce que tu disais par rapport à l'entourage qui relativise beaucoup. Ce que nous on vit, et ma mère était complètement dans ce rôle là elle nous a beaucoup dit que bon, notre père, il nous apportait beaucoup sur plein de choses sur lesquelles elle pouvait pas nous apporter, donc que c'était, même s'il avait ses défauts, c'était chouette qu'il complète un peu l'éducation qu'elle peut pas nous donner, donc elle le valorisait énormément.
Je ne suis pas devenue comme mon père. Et c'est en bonne partie grâce à ma mère. Grâce à l'amour et à l'attention qu'elle m'a donnée. Mais je dois bien m'avouer une chose, même si je n'ai pas du tout envie de l'entendre. C'est que toutes ces petites phrases-là, « Ton père, c'est quelqu'un de cultivé. Il t'apprend plein de choses que moi, je ne pourrais pas te donner. Il rapporte l'argent à la maison. » Toutes ces phrases, c'est surtout ma mère qui me les disait. Elle voulait toujours que j'aie une bonne image de lui. Elle se disait pour se rassurer. Avec moi, il est horrible, mais au moins, c'est un bon père pour mon fils.
C'est venu très très tôt, en fait, parler avec ma mère pour comprendre ce qui se passait, en fait. Dès que j'étais enfant... je dirais, oui, même des souvenirs avant mes 4 ans, quoi. Parce que j'entendais, par exemple, j'avais déjà entendu un bruit de genre vaisselle cassée ou des choses comme ça. Bien sûr, ça me faisait peur, mais j'étais dans l'incompréhension totale aussi. Ça, j'ai toujours pu vraiment en discuter librement, quoi, de la situation avec ma mère. Et c'était vraiment un énorme soutien. Avec mon frère aussi, on pouvait en discuter. Et avec ma grand-mère aussi. J'ai rapidement aussi parlé à des amis proches au collège, quelques amis proches. J'avais peut-être peur quelque part qu'ils me balancent, entre guillemets, enfin, ils balancent mon histoire à je ne sais qui. Donc, je taisais ça. Mais en fait, quand j'étais au lycée, je me suis bien rendu compte que, bah non, on n'allait pas me balancer à l'assistante sociale ou que sais-je, comme si en plus je faisais quelque chose de mal, quoi. Quand ma mère a demandé le divorce et que bon, on est parti du domicile familial, on a pu être aidé par la famille d'une de mes amies d'enfance, et ça c'était pour moi incroyable, quoi. Et c'est aussi en allant chez certains amis que je voyais bien que bah, les parents ou le parent n'étaient pas violents, en fait. Et donc, bah, l'enfant était détendu chez lui. Et je crois que les premières fois où je me suis rendu compte de ça, ça a été vraiment un déclic, parce que je voyais comment ça fonctionnait ailleurs. Et que, bah, en fait, non, ailleurs, il n'y avait pas ça, en fait. J'ai pu voir que, bah, non, il existait autre chose et c'était possible d'être avec des adultes et avec des adultes hommes, sans qu'il y ait des débordements, des cris, etc. Mais c'est vrai que par contre, je n'en parlais pas aux adultes extérieurs à ma famille, quoi. Que ce soit les profs ou psychologues scolaires, etc. Pour moi, c'était justement, c'est le tabou. Il ne faut surtout pas en parler parce que ça risque de créer des problèmes, de créer des problèmes à ma mère peut-être, et puis bien sûr de déclencher la colère encore plus grande de mon père.
Imaginons un monde idéal. Un monde où j'aurais parlé, où ma mère aurait parlé, où tout le monde nous aurait écoutés, où ma mère aurait réussi à divorcer. Qui aurait eu ma garde ? Probablement mon père. Il était fonctionnaire, alors que ma mère ne gagnait pas d'argent. Et il aurait fait bonne figure devant la juge. Bon, en fait, je n'en sais rien, mais le risque était trop grand. Être séparé de ma mère et vivre avec son agresseur, c'était inimaginable. Alors, à quoi bon parler ?
Avec ma sœur, on en parlait, mais plus en mode comme les ados qui disent « Putain, t'as vu comme papa, il est chiant », mais pas du tout avec la conscience des choses. Jamais j'ai eu l'impression de lui en parler comme quelque chose de particulier, comme si ça avait été normalisé, un peu comme tu disais tout à l'heure. Et en fait, je prends conscience maintenant que ma manière d'en parler, c'était que ma mère était malade, donc elle a eu sa fibromyalgie très tôt, mais qui initialement était que des problèmes de dos et qui s'est répandu d'année en année dans le corps. Et en fait, même moi, j'ai pris conscience il y a peu de temps d'à quel point c'était directement lié aux violences. Et du coup, je me cachais, enfin mes meilleures copines de l'époque, c'était ça que je leur disais. C'était d'un côté, de manière très distincte, mon père autoritaire, et d'un autre, ma mère... souffrante, mais sans aucun lien entre les deux. Donc, je crois que c'était ma manière d'en parler sans en parler, en quelque sorte.
Parfois, j'en parlais un peu, de mon mal-être d'enfant. À la fin des vacances, je disais à ma tante que je n'avais pas trop envie de retourner à la maison. Je faisais des dessins où on voyait que mon père était méchant. À l'époque, j'avais l'impression que c'était très clair. Et pour moi, c'était déjà énorme de dire ça. Mais aujourd'hui, je me rends bien compte que c'était assez obscur. Surtout pour quelqu'un qui ne veut pas entendre. Pourtant, il aurait suffi d'une seule question bienveillante pour que j'en dise plus.
Je me souviens d'une chose, quand j'étais au lycée, j'écrivais des poèmes assez sombres, on va dire, qui expulsait bien la rage que j'avais en moi, quoi. Et un jour, j'avais, dans le cadre d'une semaine artistique au lycée, j'avais pu exposer, en fait, dans un couloir, un poème que j'avais écrit. Alors, je l'ai fait en anonyme, mais pour moi, c'était énorme que des gens inconnus, ou des profs, etc., puissent lire ça. C'était incroyable, et je me rappelle qu'il y avait un de mes profs, justement, je sais pas comment, mais en gros, je lui avais dit que c'était moi qui l'avais écrit. Et il m'avait félicité, il m'avait dit « mais c'est super d'afficher ça, etc. » Alors bon, c'était assez obscur, donc je sais pas s'il avait tout saisi, mais en tout cas, j'étais fière de moi, quoi, de pouvoir faire ça. Et puis bon, mes amis savaient que c'était moi qui l'avais écrit, donc voilà, ils me disaient aussi « super, quoi, c'est bien ». Mais c'est vrai que, ouais, pour le dire aux adultes, enfin aux adultes extérieurs, on va dire, c'est vraiment venu à l'âge de 20 ans, je dirais. Voilà. Avec la psychothérapie, quoi. Voilà.
Moi, j'ai vu une seule psy à ce moment, enfin, quand j'étais jeune. En fait, c'est ma médecin généraliste qui connaissait ma mère depuis des années, donc qui était au courant de tout, qui, le jour où elle a vu que juste prononcer le mot père me faisait m'effondrer, m'a dit « Allez voir la psy en face ». Et j'avais vu une psy dans le cliché du psy, toute molle, qui répondait pas à ce que je disais. Et du coup, ça avait confirmé ce que je craignais, c'est de parler sans avoir de retour face à ça. Enfin, c'était complètement tombé à l'eau. Et j'avoue que comme la seule personne qui était au courant vraiment de comment ça nous impactait, c'était ma mère, et qu'elle, elle n'avait pas l'énergie pour prendre à bras-le-corps notre... Enfin, en fait, elle prenait déjà à bras-le-corps plein de choses, donc de vraiment faire en sorte qu'on soit suivi thérapeutiquement, je pense que c'était trop. Du coup, j'ai jamais revu de psy.
J'ai rencontré une fois une psy scolaire. Ton histoire me faisait penser. J'avais presque oublié son existence. À la mort de ma mère, j'avais 13 ans. Je ne sais pas si les gens à l'école savaient en fait ce qui se passait chez nous. Mais j'imagine que la perte d'un parent, ça devait être suffisant comme raison pour m'amener chez une psychologue. Et je crois que je lui ai dit que mon père était violent... envers ma mère, mais qu'avec moi, il n'avait jamais levé la main sur moi, et qu'il était un super père et tout ça. Moi, j'étais justement dans ce discours de tout va bien. J'avais dit ça comme un fait, un peu de manière froide, disons analytique. Et je crois qu'elle a un peu rebondi dessus, mais pas beaucoup. Et puis surtout, ensuite, il s'est absolument rien passé. Et c'était, je pense, un peu ma seule rencontre avec une institution, puisqu'il n'y a pas eu de divorce. Et donc, pas de police, pas de justice.
Le poète est semblable au prince des nuées.
Comment faire ?
Qui hante la tempête et se rit de l'archer.
Pour briser le tabou.
Exilé sur le sol. Au milieu des huées.
Pour en parler avec les bons mots.
Les ailes de géant.
Et pour être enfin entendu.
L'empêche de marcher.
Comment reconnecter avec mes émotions,
Charles Baudelaire,
et arrêter de penser que c'était quand même quelqu'un de bien? À qui est-ce que je peux en parler pour ne plus me sentir coupable de le détester? Merci à Sonia Pinault et Alexia Bellu de l'association Elles Imaginent. Merci à Adèle, Luna, Marine et Maya. Et merci à vous pour votre écoute. Mais c'était un bon père, une série documentaire de Thomas Belalfaoui. Prochain épisode, Je te crois. Je suis au parc, avec ma mère, je joue dans l'herbe, avec un camion de pompiers, et mon père nous filme. Un de ces moments de calme avant la tempête. Avec ma mère, je parle en français et en polonais. Elle a quitté la Pologne pour s'installer en France avec mon père. Et quand je suis née, eh bien, elle m'a transmis cette langue. C'est un peu notre jardin secret.
Tu me clapperais ton autre forge, je suis
On peut tout se dire sans que mon père ne comprenne. Et ça, ça le rend fou. Je revois très bien son petit air agacé qui hoche la tête de gauche à droite. Sa voix mielleuse. J'entends déjà le tonnerre au loin. Je sais que ça peut nous tomber dessus à tout moment. Alors, je finis par céder. Je me force à lui dire ce qu'il a envie d'entendre. Cette fois, l'orage nous a épargnés. Il y a une expression en polonais pour ça. Buja przeszła bokiem. Littéralement, l'orage est passé par le côté. Avec ma mère, on se disait tout. Elle me comprenait à 100%. Mais il y a un sujet qu'on n'abordait pas. La séparation. En fait, c'était tellement irréel qu'on n'osait même pas l'évoquer. Même pas en rêve.
C'était la première fois, je pense, que je voyais dans les yeux de ma mère et dans ce qu'elle disait que c'est bon, on allait partir, en fait. Et pour moi, c'était... Enfin, j'allais dire le mot soulagement, mais c'était, en fait, sortir de prison, vu la violence de mon père et sa capacité à vriller, on va dire, très facilement. C'était inconcevable, en fait, de faire autrement en ayant une discussion, pas posée, mais en disant, normale avec lui, où ma mère lui aurait dit, bah voilà, c'est terminé et tout. Non, non, on a dû partir, ma mère, mon frère et moi, en cachette, sans qu'il soit au courant. Et je me rappelle de ce premier jour où on est parti, que j'oublierai jamais, où je suis sortie en ville. Et j'ai regardé le ciel et j'ai respiré et je me disais waouh, je respire l'air de la liberté. J'étais obligée d'être en prison pendant toutes ces années et maintenant c'est terminé et j'ai le droit de vivre en fait.
Mais c'était un bon père. Une série documentaire de Thomas Belalfaoui. Épisode 4. Je te crois.
Salut. Putain, le chocolat là, il me tente.
Vas-y, mets le genre, s'il te
plaît. Allez.
Je craque.
Ah non, mais aux noisettes, il est incroyable.
Ben moi, mes parents sont encore ensemble et j'ai compris qu'il y avait violence conjugale autour de mes 35 ans quand ma mère m'a appelé au secours parce qu'il avait été violent et parce qu'il est parti de la maison. Et c'était dur à plein d'endroits, déjà parce que je me sentais prise en otage par ma mère qui avait déclaré que j'étais sa confidente et que j'avais rien le droit de dire à mon frère et à ma sœur, ce que j'ai trahi pour le bien-être de tous, à commencer par le mien. Et puis tous les jours, je l'avais au téléphone et elle a très vite parlé de sa nouvelle vie, quoi. Donc elle allait s'acheter un appartement, faire ci, faire ça. Et je trouvais qu'elle allait mieux à plein d'endroits. Elle faisait hyper attention à elle, elle a trouvé des amis, elle s'est confiée à sa généraliste. Et du coup, là, je m'attendais à un week-end seul avec ma mère, ce qui n'était jamais arrivé de ma vie. J'avais un peu d'appréhension, mais plutôt contente. Et en fait, il est revenu la veille. J'ai pas annulé mon billet, je suis descendue quand même. Et j'étais la seule des trois à être présente, enfin. J'y suis allée par étapes, je suis d'abord allée chez des amis pour reprendre mon souffle parce que j'avais la trouille en fait. Et j'étais très 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 fâchée contre mon père de ce qu'il avait fait et que j'avais vraiment vraiment pas envie de le voir. Et le matin, la mère m'appelle, me dit « Bon, ton père est en route, il vient te chercher. » Là, je commence à me décomposer. Il est pas au courant que t'es au courant, donc surtout tu ne le mets pas en colère, quoi. Et j'étais ok. J'avais vraiment pas quoi faire, j'avais pas envie de lui faire la bise, j'avais pas envie qu'il me touche, j'avais pas envie de cette demi-heure de voiture, tous les deux là. à rien savoir se dire. Et du coup, cette demi-heure de voiture a été un enfer, une espèce de jeu de dupe où il savait que je savais et moi je savais pas, qu'il savait que je savais. J'ai pas jugé ma mère. J'essaye de pas le faire. Malheureusement, parce que je connais bien les violences conjugales, le cycle et comment on accompagne les victimes, je n'ai pas d'espoir qu'ils se séparent un jour. Enfin, c'est même pas un espoir ou un pas espoir, c'est un fait, quoi. Et maintenant, je pense que j'essaye plus de me protéger, moi.
Merci. Les moments où je commençais à voir le visage violent de mon père, c'était les moments où il nous transportait de chez ma mère à chez lui. Il peut ne pas se passer grand-chose de spécial. C'était pas la baston à chaque fois, même si ça arrivait que ça le soit. Où ma mère, tantôt, venait accompagnée de son frère, où il y avait vraiment un concours de muscles à lequel allait faire le plus peur à l'autre. Et nous, on était au milieu de ce truc. C'est pour ça que je parle vachement là en termes de bagages, transferts, données et tout, parce qu'on se sentait vraiment comme ça au milieu des deux parents, à devoir regarder les balles de gauche à droite, quoi. Rien que là, il n'y a pas longtemps, j'avais un date. Le mec me dit moi, ma mère a invité mon père à Noël parce qu'il était tout seul alors qu'ils sont divorcés depuis 20 ans. Et j'étais en mode le kiff, pas avec les miens, mais tu sens qu'en fait, j'ai pas encore intégré qu'on pouvait se séparer parce qu'on s'aime plus sans qu'il y ait forcément de violence et de douleur.
C'est exactement ça que je craignais. La garde alternée. La juge qui renvoie ma mère et mon père dos à dos. Les torts sont partagés. Et puis, l'enfant a besoin de son père pour se construire. C'est complètement fou quand on y pense. Me forcer à recevoir ces câlins alors que je viens de le voir tabasser ma mère. Non, je n'avais pas besoin de voir mon père violent. J'aurais largement préféré vivre seulement avec ma mère.
Suite à notre demande avec ma sœur de lever la garde alternée pour pouvoir avoir le choix d'aller chez notre père ou non, je me préparais vraiment à ce qu'on mette le dossier de côté en mode elles n'ont pas l'habitude d'être face à de l'autorité et elles vont bien s'y faire, quoi. Et donc ça a été très très fort pour moi dans le sens positif du terme de voir que la garde a été levée sans débat, que après une écoute face à des juges, que j'ai pas eu à me justifier mille fois, j'ai juste eu à raconter ça une fois par écrit, une fois par oral, et que ça ait suffi. J'ai eu beaucoup de chance, je pense, parce que, enfin, il n'y avait pas de violence physique. Je crois que c'est très rare que ce soit traité en l'absence de ça. Pour le coup, ça a été une reconnaissance qui est tellement nécessaire pour légitimer toutes les émotions que ça crée, quoi.
Aujourd'hui, j'ai l'impression que je vais bien. En réalité, je me suis juste construit une armure. Et elle se fissure de partout. Comment est-ce que je peux reprendre mon souffle et me débarrasser de cette armure pour de bon? À qui je peux dire mes pensées coupables? Qui peut comprendre que je déteste mon père?
Est-ce qu'on peut répéter la question? C'est possible ou pas? Du coup, pourquoi on est venu là? Alors.
Comment tu te sentais à ce moment-là?
Ok.
Est-ce que tu cherchais aussi un groupe?
Ok. Moi, comment je me sentais? J'avais envie de faire un travail sur moi. Et ce qui m'a amené au groupe, c'est que je voulais pas te transmettre. Je vivais comme un poids à ce moment-là, l'impact que ça avait sur mon quotidien. Je voulais pas transmettre ça à mon enfant et c'est ça qui m'a poussée à passer le cap.
C'est intéressant parce que ça vous remet dans l'émotion de l'époque en réalité.
Ouais, c'était difficile, quoi, de passer le cap. C'est vrai que c'est compliqué, on se sent pas à notre place. En fait, avant de passer le cap, on se sent pas à notre place, et quand on arrive, on sait qu'on est à la bonne place, quoi. Ouais, je pense qu'il faut passer le cap pour savoir qu'on est à la bonne place. C'est pas forcément dans le plus confortable qu'on est au bon endroit, quoi. Surtout avec des parcours comme ça, quoi. Je trouve que quand on est dans le confort, en fait, en général, c'est que on est dans un schéma similaire, donc... Voilà.
J'étais vraiment à bout de souffle. Je cumulais la prise de conscience qu'il y avait bien violence conjugale entre mes parents, mon père qui avait été à nouveau violent contre moi, un énorme chagrin d'amour, et je comprenais que c'était parce que j'étais incapable de relationner sainement, que je savais pas aimer, comme je le disais à ce moment-là, et une agression. Et heureusement, le lendemain, où vraiment je n'y voyais plus clair du tout et je commençais à broyer sérieusement du noir, je vois une amie qui est psy et qui était en train de faire le DU sur les violences conjugales de l'université de Vincennes, et je lui demande de l'aide. Parce que même si j'avais ce que j'appelle ma psy du quotidien, je voyais que j'avançais pas. Et je lui ai dit que j'aimerais bien intégrer un groupe de parole sur les violences conjugales, mais que là, j'ai même pas la force de faire la recherche. Tout de suite, elle m'a envoyé tout ce qu'il faut. Il y avait deux assos dont elles imaginent. Je me présenterai à l'autre asso parce que c'était plus proche de chez moi. Je mets du temps, évidemment, j'ai la trouille et tout, mais bon, je débarque sur les horaires annoncés. Et je suis accueillie par la dame là-bas qui me demande ce qui m'amène, qui prend un rendez-vous avec une psy, et le processus, il était dur. En même temps, je savais que c'est ça que je voulais, mais j'avais tellement l'impression d'avoir un syndrome de l'imposture. Et du coup, je rencontre cette psy qui me demande le temps de réfléchir, qui contacte Elles Imagines, et quand je reviens la voir, elle me dit « bah, je pense qu'il faudrait prendre le mal à la racine, et que peut-être il faudrait commencer par un groupe pour enfants co-victimes ». Je savais pas ce que c'était, mais j'avais tout compris et je savais qu'elle avait raison. Et finalement, enfin, je savais que les violences conjugales subies et tout, ça venait de là. Et donc, je suis arrivée à Elles Imagines, épuisée et en même temps avec plein d'attentes. Et je me souviens qu'à la fin de la première séance, il y a une camarade qui m'a dit « t'es au bon endroit » et moi, au bout de 2 ans, il y a 70% de ma peine qui est partie. Et ça m'a vachement émue. Ouais. C'est bon, quoi.
On entend toute la mise au travail, le processus, ce qui se joue, les allers-retours.
Je trouve ça génial, ce principe de groupe de parole. En fait, c'est un peu comme de l'aïkido. On utilise la force de l'adversaire contre lui. Cette hyper-empathie que j'ai développé à cause des violences, ce truc de toujours me mettre au second plan, d'écouter les émotions des autres, eh bien là, ça devient une force. Quand j'entends mon histoire dans la bouche de quelqu'un d'autre, je suis plus indulgent, plus lucide aussi. Et ça me force à réfléchir sur ce que je ressens. Et c'est comme ça que j'arrive à dire des choses que je n'avais même pas réussi à me dire à moi-même.
La dernière question va être encore plus difficile.
Je me dis que ça pourrait être intéressant de finir cette séance et de boucler cette session podcast par un message que vous auriez à dire à l'enfant que vous étiez, plus petit, plus petite.
Alors moi, il y a une phrase qui me vient notamment de l'asso Nous Toutes, qui est « Je te crois ». Je pense qu'elle est fondamentale et que ça doit être une des premières phrases peut-être à dire à un enfant qui vient se confier, parce que déjà c'est un pas énorme, parce qu'on va peut-être avoir du mal à mettre des mots sur ce qui se passe, oser franchir la honte, le tabou, etc.
C'est marrant parce que c'est une des premières questions que m'a posée la psy que je suis allée voir la première fois. Et j'avais beaucoup de mal à y répondre. Enfin, pas parce que c'était particulièrement émouvant, mais juste parce que je ressentais rien, justement. Je n'arrivais pas du tout à me connecter à ce moi enfant. Bon, ça fait quelques temps, du coup, aujourd'hui, j'y arrive un petit peu. Alors, je vais essayer de répondre quand même. Et du coup, bah, le message que j'aurais envie de dire, c'est que bah, aujourd'hui, j'ai 33 ans et bah, si tout n'est pas parfait, je pense que je vais beaucoup mieux. Et notamment, contrairement à pas mal de personnes, j'ai pas du tout envie de retourner dans le passé. Moi, je pense que là, aujourd'hui, c'est le moment où je suis le plus heureux par rapport à tout mon passé. Et donc, bah, ce moment, il existe. Et c'est l'existence de ce moment-là que j'aimerais dire à mon moi enfant.
Merci, Thomas.
Moi, cette question, elle est hyper difficile pour moi. Je sais pas trop quoi dire. On te croit, ça me parle. Après, vraiment, j'ai un vide face à la question, quoi. Je sais pas trop quoi. Franchement, je sais pas quoi dire, quoi. Je sais pas.
S'il y avait le droit qu'à une seule phrase. Je me dirais vraiment, ce n'est pas normal, c'est pas normal, et écoute-toi. Une insistance aussi sur se fier à ce qu'on ressent, et c'est pas normal si tu ressens de la peur tous les jours, c'est pas normal que tu sois en apnée tous les jours, pour que quand j'imagine cette période d'enfance, c'était dur, mais j'avais pas du tout conscience que c'était pas normal. Donc je pense que ça aurait été un énorme soutien pour ensuite que tout le reste puisse être accéléré.
D'accord. Merci beaucoup, Adèle. Quelqu'un d'autre pour partager?
Vas-y.
Non, vas-y, Thomas.
Vas-y.
En fait, ça m'est arrivé dans une séance d'hypnose il y a quelques années, de rencontrer cette petite fille que j'ai été, ce que, comme Thomas, je me refusais complètement à faire, à connecter. C'était un non-sujet. J'essayais juste de survivre et de fuir en avant. Et j'avais jamais fait d'hypnose, j'y croyais pas trop. Bon. Et puis là, je me retrouve face à elle, et en fait, je l'ai prise dans mes bras et je l'ai consolée. Déjà ça, c'était un grand pas. Et je me retrouve beaucoup dans ce que t'as dit, Luna. Je te crois. C'est hyper important comme phrase. Et j'ai deux anecdotes avec ça. Pour fêter mon deuxième divorce, mes amis m'ont offert un collage sous ma fenêtre et elles ont écrit « On te croit ». Et c'était hyper fort. Et pendant des mois, je buvais mon café en le regardant. Et en me disant, c'est bon, pour une fois, on m'a cru, quoi. J'imagine le personnage de Marjane Satrapi dans Persepolis quand elle est fâchée et qu'elle écoute The Eye of the Tiger. Et j'ai envie d'être à nouveau petite fille face à mon père, mais en fait, je le suis encore, malheureusement. Et lui dire, tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit. Mais bon, faut pas se mettre en danger non plus, quoi.
Merci, Marie.
Pour rajouter une chose, par rapport peut-être à vraiment si je m'adressais à l'enfant que j'étais, alors je trouve ça aussi compliqué comme exercice, mais ce serait peut-être de lui dire tu vas bientôt être libéré, en fait. Dans le sens, tu vas bientôt être libéré de ton père qui t'empoisonne la vie. Et en fait, de savoir qu'il y aura cette deadline bientôt, je pense que ça pourrait être apaisant dans la tête de la petite fille. Voilà, j'aimerais lui apporter la preuve que c'est bon, ça va couper direct et ta vie, elle va complètement changer et tu vas enfin être libre de tes mouvements, de faire ce que t'aimes, de voir les gens que tu aimes, etc.
Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Un adulte sur 10 a grandi dans une famille où il y avait des violences. Le groupe de parole, c'est un super outil pour réparer, une fois que le mal est fait. Mais comment est-ce qu'on pourrait faire moins de mal aux enfants qu'aux victimes ? Comment est-ce qu'on pourrait faire pour qu'on nous écoute plus tôt et pour qu'on respecte notre parole ? Eh ben, j'ai l'impression que pour ça, il faut se confronter à la question qui fâche. D'où est-ce qu'elle nous vient, cette idée qu'un enfant a absolument besoin de son père pour se construire, coûte que coûte. Merci à Sonia Pinault et Alexia Bellu de l'association Elles Imaginent. Merci à Adèle, Luna, Marine et Maya. Et merci à vous pour votre écoute. Mais c'était un bon père, une série documentaire de Thomas Belalfaoui. Prochain et dernier épisode, l'autre.
Les ondes buissonnières, diffusion sauvage de sonorités apprivoisées.
Yes!